Vous écoutez l'émission Paradoxa et il est 20h sur Radio Campus Paris.
Paradoxa, questionner les pratiques culturelles et médiatiques à travers les sciences de l'information et de la communication. Actualité, entretien et analyse, tous les deux mois, le mardi à 20h sur Radio Campus Paris. Une émission présentée par Ilona Prieur.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Paradoxa. Ce soir, nous parlerons de l'histoire de la politique à travers l'évolution des techniques de communication. En 1960, la télévision joue un rôle central et prédominant dans la vie politique française et dans la constitution de l'opinion publique. Nous entrons aujourd'hui au sein d'un nouveau paradigme avec l'apparition du numérique qui rebat les cartes du paysage politique. L'histoire des idées est rarement mise en relation avec l'apparition des nouvelles techniques, et pourtant, certains penseurs en media studies comme Marshall McLuhan ou après lui Régis Debray en 1990 ont démontré à quel point celles-ci sont irrémédiablement liées. Si la création de la télévision a engendré le règne de l'immédiateté de l'image, qui permet à l'humanité de maîtriser l'espace et le temps en diffusant l'information avec de nouveaux moyens techniques, les dispositifs médiatiques qui lui ont succédé continuent de transformer et de remodeler la société dans laquelle nous vivons. Comment les politiques s'emparent-ils de ces nouveaux outils? Avec quels enjeux stratégiques? Comment le numérique conditionne et remodèle-t-il le débat public et dans quelle mesure les citoyens adoptent une nouvelle façon d'appréhender l'information? Notre invité Thierry Devard est chercheur au GRIPIC et maître de conférences au CELSA. Il est l'auteur de l'ouvrage « La politique en continu vers une BFMisation de la communication » paru aux éditions Les Petits Matins en 2015. Ses récents travaux portent notamment sur les mutations télévisées de la communication politique et ont été publiés dans la revue numéro 7, French Journal for Media Research, en 2017. La même année, il a également publié les élections présidentielles et informations en continu, les mutations télévisées du récit de campagne paru dans la revue numéro 8 de télévision et édité par CNRS Éditions. Thierry Devard, bonsoir. L'apparition de la presse, de la radio et de la télévision ont radicalement transformé le monde dans lequel nous vivons. Elles exercent notamment une influence sur l'espace public qu'elles contribueraient à modeler et à transformer. Quels infléchissements peut-on constater avec l'apparition du numérique selon vous ?
Alors merci beaucoup pour votre invitation. Pour répondre à votre question, je dirais que les transformations qui affectent l'espace public, qui sont des transformations liées à l'apparition du web dans un premier temps, puis aux réseaux sociaux numériques, au smartphone dans un second temps, sont comparables à ce qui a pu se jouer plus en amont. Je dirais qu'il faudrait remonter presque au 19e siècle avec la manière dont l'industrialisation de la presse destinée à un plus large public, puis au début du 20e siècle avec la radio, puis la télévision. Tout ceci a élargi l'espace public de façon globale, l'espace public médiatique en particulier, et le numérique a sans doute contribué peut-être à accélérer justement cette mise en circulation des idées, cette mise en confrontation des idées, avec des conséquences dont on pourrait discuter ensemble.
Le dispositif télévisuel conditionne a priori notre réception de l'information dans la mesure où il opère une communication verticale et descendante. Aujourd'hui, le numérique change un peu tout cela en permettant au public de s'émanciper quelque part de cette forme de domination communicationnelle. Peut-on considérer qu'il détienne pour autant davantage la maîtrise de son rapport à l'information ?
Disons qu'il a, ce même public, une relation différente à ce qui constituait le rapport à l'information, l'espace public tel qu'il était structuré par les médias d'information dits classiques. Et notamment par la télévision qui a constitué un point de repère hégémonique jusqu'au début des années 2000. Cette persistance, ce rôle de la télévision persiste dans cette verticalité que vous évoquiez, mais est quelque part revitalisée, remise en question par une relation qui n'est plus du tout pensée aujourd'hui en termes d'opposition ou de concurrence, mais plutôt de complémentarité avec ce qui se joue sur le web, ce qui se joue sur les réseaux sociaux numériques, qui sont peut-être moins des espaces de prise de pouvoir que des espaces, disons, d'expression et de mise en visibilité des expressions dans l'espace public. Et je pense que c'est ce qui va véritablement constituer une rupture. J'évoquais précédemment les conséquences induite par l'apparition du numérique sur l'espace public, sur la communication politique, sur le rapport à l'information. Et je dirais que ces possibilités expressives nouvelles, depuis le début des années 2000, sont l'une de ses conséquences.
On voit qu'avec la télévision, le récit politique est lui-même adapté. Vous avez d'ailleurs publié « La politique en continu vers une BFMisation de la communication » dont on parlait dans l'introduction. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous entendez par « BFMisation de la communication » ?
Alors l'expression « BFMisation », qui est un néologisme, n'est pas de mon cru. À vrai dire, c'est un mot qui est apparu dans un article, une enquête de terrain conduite par des journalistes du Monde, au moment où la chaîne BFM TV, la chaîne d'information en continu, faisait parler d'elle, occupait un peu le devant de la scène médiatique au début des années 2010, comme responsable d'une forme de, on va dire, déliquescence de la qualité de l'information, comme une forme de mise en question de ce qui constituait, je dirais, les cadres canoniques de l'information journalistique. La BFMisation, si on doit la qualifier, c'est un rapport particulier à l'instantanéité, au direct, et au direct posé comme une idéologie. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça concerne a priori l'univers de la télévision, l'univers de l'information télévisée, mais que cette information télévisée, elle s'inscrit elle-même dans un environnement médiatique global qui s'est transformé, qui est marqué par ce rôle du direct, ce rôle du présent, du présentisme, de l'instantanéisme, mais que cette idéologie instantanéiste, elle est intimement liée au déploiement de toute une culture digitale, au déploiement des médias informatisés, des technologies numériques dans l'ensemble de la société. Et je crois qu'il y a vraiment un lien à interroger entre cette accélération du temps médiatique télévisuel et l'environnement médiatique global, digitalisé, dans lequel il s'est inscrit.
En 1997, Philippe Marion définit le concept de médiagénie ainsi. La médiagénie qualifie la capacité d'un sujet, d'un projet narratif, voire d'un genre, à se réaliser de manière optimale en choisissant le partenaire médiatique qui leur convient le mieux, démontrant ainsi l'importance du support de communication pour véhiculer un message. Qu'observez-vous aujourd'hui dans l'évolution des tendances médiagéniques ?
Oui, alors le concept de médiagénie, il met à l'honneur le concept de récit, qui est une manière d'analyser les médias, qui est la façon dont Philippe Marion, dans ses travaux de recherche, appréhende justement les discours, les représentations, les images médiatiques. Il me semble qu'aujourd'hui, ce concept de médiagénie, il doit être pensé en considérant des médias qui ne sont pas étanches les uns par rapport aux autres, mais plutôt suivant un principe privilégié de circulation des représentations, des idées et des discours d'un média à un autre. Et partant de ce point de vue-là, si on pense à l'actualité sociale, politique, ce qui va être privilégié, ce sont d'abord peut-être des formes brèves. Ces formes brèves que j'évoquais, par exemple, à travers le réseau social Twitter, qu'on va retrouver également sur les bandeaux des chaînes d'information en continu, qu'on peut retrouver sous la forme du hashtag, tout ce qui va être potentiellement viral, ce qui va pouvoir circuler. Je dirais qu'une des tendances, ce serait ça, c'est ce privilège donné aux formes brèves. Alors dans le champ politique, la forme brève, c'est la petite phrase. Dans le champ politique, ça peut être aussi l'affrontement, le clash, la petite séquence qui constituera finalement matière à discours et matière à discours dans différents espaces médiatiques. Et la contrepartie de ce privilège donné aux formes brèves, donné à des formes assez émotionnelles qui relèvent de la joute, du combat, c'est qu'on va moins mettre l'accent dans les médias, en tout cas c'est ce qu'on peut observer, sur des logiques qui seraient plus celles de l'argumentation, du discours fleuve, disons.
Paradoxa sur Radio Campus Paris 93.9.
Un homme public, a fortiori un président de la République, n'a pas de famille en tant que tel. Il n'a pas à parler de lui-même en tant qu'individu, il incarne quelque chose qui le dépasse. Donc, nous sommes aujourd'hui un peu comme sous la monarchie de Juillet. Je crois que Walter Benjamin disait, la monarchie de Juillet, c'est le moment où l'homme privé monte à la tribune de l'histoire. Moi, j'aimerais de temps en temps voir des hommes publics qui oublient leur vie privée et qui nous parlent d'autre chose que de leur vie privée.
Nous venons d'entendre un extrait de l'interview de Régis Debray sur France Inter réalisé en 2019. Il dit notamment que le président de la République n'a pas à parler de lui-même en tant qu'individu dans la mesure où il incarne quelque chose qui le dépasse. Auriez-vous une réaction par rapport à sa vision des choses ?
Oui, c'est une certaine conception de ce que doit être une personnalité publique, une personnalité politique, qui fait écho d'ailleurs à votre question sur la médiagénie, je dirais, puisque vous me demandiez quelles étaient les formes ou les tendances privilégiées, et j'évoquais les formes brèves, cette valorisation de l'émotion dans le champ médiatique, et il me semble que en valorisant les émotions, le champ médiatique, quelque part, peut faciliter l'ouverture de la vie publique pour les politiques, hein, à des espaces qui relèvent de l'intimité, qui relèvent du psychologique, qui relèvent des émotions qui n'étaient pas nécessairement aussi présentes avant cette période qu'évoque Debray, qui est liée à la monarchie de Juillet. Ce qui est effectivement observable, et plus encore, je dirais, depuis les années 70-80, c'est une tendance à la pipolisation du politique. Je reprends les travaux de Jamil Dakhlia, qui a beaucoup travaillé sur cette rencontre entre le registre people et le registre du politique, et qui nous dit quelque chose de la manière dont le politique, la médiatisation du politique est renouvelée. Ça ne veut pas dire qu'on n'observe qu'une médiatisation par l'intimité, mais la médiatisation de l'intime, de l'intimité du politique, de la personne, du personnel, est de plus en plus flagrante, et ça, on l'observe. Est-ce que ça a déploré ou non, c'est une autre question, mais dans les émissions de télévision qui ont ouvert leur plateau aux politiques, je pense aux émissions de talk show et d'infotainment, ou à d'autres émissions plus récemment comme Une ambition intime par exemple, qui a perpétué finalement cette dynamique au long cours.
Restez avec nous sur Radio Campus Paris, vous écoutez Paradoxa et on se retrouve juste après une petite pause musicale.
Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Nos planètes ne conteste, ni revendique, ni ne proteste.
Merci d'être toujours avec nous dans l'émission Paradoxa sur Radio Campus Paris. Nous venons d'entendre L'opportuniste de Jacques Dutronc. Et ce soir, nous parlons de la communication politique avec notre invité Thierry Devard, chercheur au GRIPIC et maître de conférences au CELSA. Nous parlions précédemment de télévision, mais on peut voir que le numérique bouleverse également les normes politiques et l'espace public dans lequel les différents partis évoluent. Les politiques investissent ainsi de nouveaux espaces. Je pense notamment à l'intervention du président Emmanuel Macron dans les vidéos des youtubeurs McFly et Carlito. Il y a évidemment une ambition électorale de toucher un public plus jeune qui ne s'intéresse pas toujours aux problématiques politiques. Mais selon vous, Thierry Devard, ce genre de collaboration assez inhabituelle seront-elles amenées à se développer dans les années à venir ?
Oui, je pense que ce sont des formes de médiatisation qui sont appelés à se banaliser, et ce au plus haut sommet de l'État, avec peut-être une petite distinction à opérer entre ce qui relève de la médiatisation de l'intime, c'est-à-dire de ces moments où la femme ou l'homme politique s'exprime sur sa vie personnelle. Il y a ça d'un côté, puis il y a de l'autre une diversification des mises en scène des femmes et des hommes politiques, mais pas nécessairement sur des questions qui relèvent de leur vie intime ou de leur vie personnelle. Pour McFly et Carlito, il me semble que ce serait plutôt une manière pour le président de la République de montrer qu'il est familier, voire qu'il maîtrise les codes culturels d'un média ou d'un espace médiatique, en tout cas associé aujourd'hui aux jeunes générations. Donc il y a la valorisation pour le politique d'un capital médiatique. Et il apparaît peu probable qu'on observe un retour en arrière à une présence du politique qui serait strictement limitée à des espaces très classiques comme le journal télévisé ou l'émission politique. Je crois qu'on a là, au contraire, une diversification des espaces investis, une présence importante de l'intime et la valorisation de ce que certains chercheurs ont appelé un capital médiatique ou communicationnel.
Pour certains politiques, on voit que ça marche assez bien. Cependant, on voit qu'ils ne maîtrisent encore pas tous les codes assez normatifs du numérique et que cela peut parfois faire tout à fait l'effet inverse de celui escompté. Avec l'histoire du mème, de la parodie et de leur circulation sur les réseaux sociaux, le risque encouru aujourd'hui est assez grand. Le numérique pourrait-il conduire à une perte de l'aura politique, selon vous ?
Je pense que le numérique a déjà contribué à sa mesure. Il n'est pas évidemment seul en cause dans cette affaire à dissiper ou dissoudre cette aura politique, ou en tout cas accélérer un phénomène, je dirais, de banalisation, de désacralisation peut-être de l'image du politique. Et quand on parle des femmes et des hommes politiques, ce dont il est question ici, c'est bien entendu des personnalités de premier plan. Évidemment, la vie politique ne se restreint pas à Emmanuel Macron, ni aux ministres de son gouvernement, ou aux principaux députés présents dans les médias aujourd'hui. Cet espace numérique qui s'est ouvert aux politiques en France dans les années 2000 constitue à la fois une opportunité, l'opportunité de façonner une communication à son image, mais également un espace qui comporte des risques réputationnels. Et je pense que le risque réputationnel, il a des enjeux, disons, variables, suivant le type d'écart qui sera pointé du doigt, suivant le type de prise de position qui va susciter l'attention. Donc on a eu l'occasion d'observer, dès les débuts du web politique, à quel point un mauvais mot, comme « casse-toi pauvre con », par exemple, de Nicolas Sarkozy, a pu entacher durablement l'image du politique. Et ce qui va peut-être changer la donne ces dernières années, ou ce qui a pu changer, c'est finalement cette idée qu'une information en chasse une autre. C'est ce principe de l'accélération du temps médiatique qui fait que l'empreinte de ce type de buzz, disons négatif, est peut-être moins indélébile qu'elle ne l'était au début de la présence du politique sur Internet.
On constate aujourd'hui que la politique entre dans un nouveau paradigme au sein duquel les femmes et les hommes de pouvoir doivent de plus en plus cultiver une image claire, identifiable et visible, ce qui se ressent d'ailleurs d'autant plus lors des périodes électorales. Comment la mise en place des candidats à la présidentielle se manifeste-t-elle ? Est-ce que vous auriez des exemples concrets ?
Oui, alors il y a un phénomène qui est important de noter, c'est que cette période dont on parle, qui coïncide à la rencontre entre le numérique et la vie politique, elle a finalement un peu moins de 20 ans. Et que cette acculturation des politiques au numérique, cette acculturation, je dirais, de la société, de façon globale au numérique, elle a été très rapide. Et elle s'est manifestée par une bataille, qui est une bataille à la fois pour la visibilité et une bataille pour l'attention des publics, des citoyens. Et ce qu'on aurait pu envisager comme un espace d'émancipation par rapport à des logiques marchandes, le web, s'est finalement rapidement paré des habits justement du marketing et de stratégies d'image, de mise en marque pour les principales personnalités politiques destinées à faire occuper, comme à la télévision, le devant de la scène. Alors les stratégies, je dirais, déployées par les politiques sont peut-être... ne sont pas réductibles à l'espace numérique. Ce sont des stratégies d'ensemble qui vont consister, par exemple, pour un chef de l'État en exercice, à préparer une petite phrase dont il saura très bien qu'elle alimentera les discussions sur les réseaux sociaux. Qui consistera, par exemple, pour un ancien candidat à l'élection présidentielle, je pense à Éric Zemmour, à rendre publique une vidéo de campagne dont on a pu... apprécie ensuite le caractère controversé et largement discuté. Donc je dirais qu'il y a une volonté évidemment de rationaliser le principe d'une présence sur le digital, mais parfois partant d'une stratégie de rupture ou d'écart par rapport à des normes attendues.
On voit effectivement que le politique investit des espaces de manière transverse, et ça me fait penser à la notion de transmédia qui est définie par Henry Jenkins en 2003 comme un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Idéalement, chaque médium apporte sa propre contribution pour le développement de l'histoire. Peut-on observer cette technique médiatique notamment dans les récits politiques, selon vous ?
Cette conscience, en tout cas, du fait que la stratégie, elle s'inscrit de façon indéniable aujourd'hui pour les politiques dans la perspective du transmédia, elle est présente chez nombre, évidemment, de politiques. Je pense tout particulièrement à Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022, peut-être tout particulièrement en 2017, quand, je dirais, la construction de son image, hein, c'est à la fois fondée sur... la réputation qu'il avait d'être un bon orateur à la fois dans les meetings mais aussi à la télévision, sur les plateaux de télévision, donc bénéficiant d'une certaine télégénie, et d'autre part sur cette mise en perspective adaptée des propositions qu'il pouvait formuler sur les dispositifs numériques. Je pense au blog qu'il avait lancé en 2017, je pense également au lancement de sa chaîne YouTube qui a été la première à ma connaissance, a véritablement valorisé sur le plan politique hein, l'adéquation d'un candidat, du récit qu'il a proposé avec les codes du site d'hébergement.
La communication politique serait effectivement de moins en moins descendante en devenant plus interactive, et il y a d'ailleurs également les live Twitch de Jean-Luc Mélenchon au cours desquels il va répondre en direct aux commentaires des utilisateurs. Malgré tout, on constate une abstention qui va croissante et qui atteint des niveaux historiquement bas. Faut-il considérer cela comme une stratégie de communication inefficace de la part des hommes politiques ?
Oui, ou en tout cas ça met en lumière des éléments qui sont plutôt salutaires quelque part, qui ne concernent pas là spécifiquement Jean-Luc Mélenchon, mais je dirais qui concernent le rôle parfois mythifié qu'on peut assigner à la communication par rapport justement à la vie politique et à la vie démocratique en lui prêtant un pouvoir qui n'est pas le sien. Ça, c'est un questionnement qui revient fréquemment quand on considère l'histoire des médias, l'histoire de la vie politique, et qu'on observe que la vitalité, je dirais, de l'espace communicationnel n'est pas indissolublement liée à la vitalité démocratique telle qu'elle se manifesterait par exemple, hein, l'idée d'une forte participation à des élections ou d'un engagement plus fort des citoyens. Et on quitte quelque part... les perspectives qui étaient soulevées lorsque le web est apparu et ces utopies qui ont accompagné la rencontre entre web et politique. Utopie d'une démocratie plus efficace, d'une meilleure participation des citoyennes, des citoyens. On voit bien, 20 ans après cette rencontre, que la réalité est tout autre et qu'il y a une asymétrie ou une dissymétrie entre le champ de la communication et le pouvoir de la communication d'une part, et d'autre part, la vie sociale et politique.
Aujourd'hui, on constate de plus en plus une dissociation entre la communication politique d'une part et les conséquences que cela va avoir manifestement dans la constitution de l'opinion publique. Notamment, enfin, je pense aux participations aux présidentielles. D'un autre côté, en 1960, le général de Gaulle s'est emparé du dispositif télévisuel en réalisant à quel point il représentait un outil éminemment stratégique dans l'exercice de son pouvoir politique. Vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais selon vous, la télévision conserve-t-elle cette hégémonie qui la caractérisait à l'époque ?
Alors, la télévision, elle a commencé en France, en tout cas, et sur le plan de la vie politique à acquérir une certaine autorité dans les années 70. C'est-à-dire après qu'elle a été apprivoisée, découverte par le personnel politique, dont le général de Gaulle, ce que vous dites, dont François Mitterrand et d'autres politiques. L'autorité, elle se construit sur la mise en œuvre d'un journalisme politique qui invente des dispositifs, des scénographies, de duels, d'entretiens à plusieurs voix, etc., qui va perdurer jusque dans les années 90 en se voyant confronter, cette autorité, à une fuite des téléspectatrices et téléspectateurs vers d'autres programmes de divertissement, des programmes non politiques. Aujourd'hui, la télévision, ce qu'on peut observer, c'est qu'elle reste un média très vivant, vivant au sens où elle a été contrainte de s'ajuster par rapport à sa propre histoire et de s'ajuster par rapport aussi à l'émergence des médias digitaux. Et je dirais qu'elle persiste quelque part à constituer un point de référence dans la médiatisation de la vie politique pendant notamment les grands moments de la vie politique et tout particulièrement en France, les échéances électorales, présidentielles, législatives, etc. Il y a, on l'observe, une prédilection du politique pour l'espace télévisuel. Observons simplement la manière dont la crise sanitaire a permis de nous rappeler que l'un des premiers espaces investis par le politique pour s'adresser à la population a été la télévision. Et on pense là, bien entendu, aux allocutions du président de la République, du Premier ministre et des ministres de la Santé. Donc je dirais que voilà, cette autorité, elle est, on va dire, recontextualisée, mais elle reste présente.
Et pour finir, auriez-vous un exemple marquant d'un moment où les médias ont bouleversé la vie politique française ?
Je pense que les moments qui ont pu marquer, je dirais, l'histoire de la politique à la télévision sont nombreux, mais je retiendrai sans doute, parce qu'il constitue un moment rituel, la place occupée par le fameux débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle française qui intervient en 1974, qui va opposer François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing et qui va marquer la vie politique en rappelant combien elle repose sur le principe du duel, sur le principe d'un combat, sur le principe de la mise en scène. Et c'est d'autant plus, je dirais, marquant que l'événement en tant que tel n'est pas isolable, mais se perpétue à travers une tradition qui est attendue, qui n'a pas nécessairement une incidence sur le verdict des urnes, comme on dit, mais qui a une véritable dimension symbolique dans l'imaginaire collectif, dans l'opinion, de façon globale. Donc, si je devais isoler, voilà, plutôt qu'un moment, je dirais un objet ou un espace, et ce serait cet espace du débat d'entre-deux-tours, du duel. Et quelque part, cet objet-là vient condenser ou nous rappeler les éléments de discussion qu'on a évoqués précédemment et qui vont concerner l'individualisation, voire la personnalisation du débat, la question des émotions, la question du combat qui sont des formes et des objets privilégiés dans la médiatisation contemporaine du politique.
Merci beaucoup Thierry Devard. Je le rappelle, vous êtes chercheur au GRIPIC et maître de conférences au CELSA. Vous avez publié La politique en continu vers une BFMisation de la communication, un ouvrage passionnant paru aux éditions Les Petits Matins en 2015. N'hésitez pas à aller le consulter pour aller plus loin dans l'analyse de la politique contemporaine. Au cours de cette émission, il a été question des nouveaux espaces qu'investissent les politiques. Ils ont de nouvelles manières de s'exprimer, de jouter, à l'aide des formes brèves et émotionnelles, au détriment de discours plus argumentatifs. Il s'agit aujourd'hui de parvenir à un degré de visibilité suffisant pour gagner les faveurs de l'opinion publique. On observe ainsi des stratégies de diversification et une mise en marque des différents acteurs à travers des espaces interconnectés qui favorisent une mise en récit transverse des candidats. Si l'on peut croire que ces nouvelles pratiques remodèlent le paysage politique et l'opinion publique, elles n'ont en définitive pas autant d'effet que cela. Les formes anciennes, telles que la presse et la télévision, conservent leur légitimité et sont l'espace privilégié des prises de parole, notamment lors des grands événements de vie des Français, qui représentent encore aujourd'hui un outil central dans l'exercice du pouvoir politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Vous pourrez retrouver votre émission Paradoxa sur les sciences de l'information et de la communication sur les plateformes de streaming. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et vous dis à bientôt sur Radio Campus Paris.